Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission consacrée à la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer à l'heure du goûter des livres pour enfants, petits et grands. Vous connaissez l'histoire de la Belle au bois dormant? Celle qui dort pendant 100 longues années en attendant d'être réveillée par un baiser de son prince. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, en profitant du passage à l'heure d'hiver la nuit dernière, je me suis demandé à quoi elle avait bien pu rêver pendant son grand sommeil. Alors aujourd'hui, nous embarquons tous ensemble pour le pays des songes, et notre premier guide sera un petit nain malin, parti explorer la nuit sombre. Nous accosterons sur une île étrange peuplée de monstres, maxi terrifiant. Mais avant ça, nous aurons rencontré un étrange détective privé qui résout les énigmes pendant son sommeil. Prêt pour le grand voyage? À vos marques. Prêt? Fermez grand vos yeux, bande de doux rêveurs. Dreamer, super tramp. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Nous avons atterri dans une pelouse à l'herbe douce. Il fait nuit. Au-dessus de nous, des étoiles brillantes. La couverture de l'album est évidée et dans le rond apparaît un lutin, chapeau rouge vissé sur la tête et pelle à la main, qui lève des yeux étonnés vers le ciel. En soulevant la couverture, on découvre qu'il regarde une étoile filante. Sa mine surprise semble nous dire
« À quoi ça rime ?»
La nuit d'un nain malin.
Un album de Junko Shibuya édité par Autrement. À quoi ça rime?
Sur la première image, une baignoire dégouline de mousse sous une lucarne qui découvre quelques étoiles dans un ciel sombre. Mais qui prend donc un
bain
à cette heure-ci? En tournant la page, on découvre le
nain
de la couverture qui se savonne. Sur de petits tabourets en forme de champignons, l'attendent ses habits. Calée contre le mur, sa pelle, et sur la commode, une bougie éclaire la pièce.
À quoi ça rime?
Sur la page suivante, un lit confortable et de nombreux livres sur l'édredon. Le nain a dû entendre un bruit car il s'est levé. En pyjama, il arpente son logis, une chandelle à la main. Dans l'embrasure d'une porte, il voit soudain une
ombre.
On tourne la page pour se retrouver dans sa cuisine. Tout est
sombre.
Le nain n'emmène pas large. Quelqu'un est entré et a tout renversé. Peut-être est-ce le propriétaire de cette paire d'oreilles rondes qu'on aperçoit à travers la fenêtre?
Réveil! À quoi ça rime?
Le nain est sorti dans la nuit à la poursuite du voleur, qui n'est autre qu'un
rat
qui remporte triomphalement un morceau de fromage. Mais alors que le nain s'est accroché à sa queue, les voilà maintenant poursuivis par un
chat
aux yeux verts.
À quoi ça rime?
Verts comme des
pois
qui sortis de leur cosse ont été semés. Comme le petit poussé, le nain les suit à travers un
bois
plongé dans l'obscurité. Des animaux nocturnes l'observent, cachés dans la forêt, où le lutin croise aussi le petit chaperon rouge avec son panier.
À quoi ça rime?
Un peu plus loin, une drôle de
silhouette
se détache dans la nuit. En tournant la page, nous voici en plein hiver. Sur le sol enneigé, une fillette frigorifiée se réchauffe en craquant ses
allumettes.
Le nain l'observe, plein de pitié, installé dans un sapin de Noël.
À quoi ça rime?
Épuisé par son périple nocturne, le nain s'arrête devant un
siège
qui se révèle, sur la page suivante, être la banquette du carrosse d'un
manège
dans lequel, tout surpris, le nain se retrouve nez à nez avec ses personnages favoris.
Il y a Blanche-Neige, les sept nains, Peau d'âne, Cendrillon, le Chaboté, Robin des Bois. À quoi ça rime ?
L'expédition rocambolesque du nain se poursuit jusqu'au lever du
soleil
derrière les montagnes. Et là, surprise en tournant la page, on découvre le nain dans sa chambre, tout ensommeillé.
Réveil !
Va dû sonner. Sur sa table de chevet, la bougie de sa chandelle s'est entièrement consumée, alors que partout autour du lit s'amoncellent des livres de contes. Voici un livre ludique et malicieux qui propose une balade nocturne, onirique et farfelue aux jeunes lecteurs. La forme variée des découpes dans les pages et la poésie des rimes réservent bien des surprises. Les douces illustrations, toujours rassurantes, installent une vraie connivence avec l'enfant qui reconnaît dans l'image les personnages des contes de fées classiques. Et qui sait, peut-être les rencontrera-t-il à son tour dans ses rêves. Rêve par Louis Bertignac et les Visiteurs.
Je me raccroche à mes rêves.
Ce pourrait être la devise du sieur Banerjee, un bien curieux détective privé. Vous connaissez probablement Sherlock Holmes, le roi de la déduction logique, et son fidèle docteur Watson. Il est temps de vous présenter un nouveau duo de choc de l'investigation, Argina Banerjee et Christopher Carandini. Comme l'indique Banerjee,
l'enquêteur, c'est Carandini. Moi, je ne suis que le rêveur.
Mais reprenons depuis le début, à savoir une mystérieuse petite annonce parue dans un quotidien et remarquée par Carandini, ancien journaliste, désormais sans emploi.
Gentleman cherche secrétaire particulier pour surveiller son sommeil. Se présenter au 30 Portobello Road et demander une théière.
Toute la nuit, j'ai ruminé ces deux phrases. Qui pouvait bien avoir besoin de quelqu'un pour surveiller son sommeil ? Et que venait faire cette théière dans l'histoire ?
Nous sommes à Londres en 1906. Intrigué et surtout sans le sou, Carandini se rend à l'adresse indiquée. C'est là qu'il rencontre, dans un petit bureau, Monsieur Banerjee, qui lui fait passer un drôle d'entretien d'embauche.
Monsieur Banerjee, comment sais-je ? Qui êtes-vous au juste ? Banerjee tira une montre de sa poche de veste, puis les replaça.
Le temps nous est compté. Je vais donc vous dire ce que vous avez à savoir pour le moment. Êtes-vous confortablement installé ?
Ma foi, suffisamment pour vous écouter, je pense.
Et possédez-vous une montre ?
Oui, j'ai une montre à gousset. Pas aussi belle que la vôtre, toutefois.
Si elle donne l'heure, c'est l'essentiel, monsieur Carandini. J'exerce la profession de détective privé. Toutefois, mes méthodes vous sembleront très certainement inhabituelles.
Je n'avais aucun mal à le croire. Le sourire que Banerjee m'adressa, tellement entier, me fit ressentir un indéfinissable bien-être.
Je perçois que vous êtes un homme très pragmatique, monsieur Carandini. Il n'y a aucun mal à ça. Alors, je vais me montrer pragmatique à mon tour. Pour connaître la solution à une énigme, j'ai besoin de la rêver.
Pardon ? M'écriai-je sans pouvoir retenir un pouffement. De la rêver ? Mais enfin, que racontez-vous ?
Je suis issu d'une famille de brahmanes, et je tiens de celle-ci certains savoirs anciens qui, s'ils n'ont rien de particulièrement complexe, échappent à la compréhension des occidentaux.
J'étirai mes jambes. Que je vous comprenne bien. Vous allez vous endormir, faire un rêve, et le nom du voleur va se révéler à vous comme par magie ? Est-ce bien cela ? Banerjee m'adressa un sourire, à la fois amical et un peu condescendant.
Non, monsieur Carandini, je ne suis pas un magicien. Les devins n'existent pas. Et mon rêve ne me permet pas d'apprendre des choses que je ne sais pas. Il me permet, en revanche, d'organiser ce que je sais déjà, et de mettre en lumière des éléments que mon conscient aurait laissés de côté. Notre esprit tend à s'attarder sur ce qui se remarque le plus, mais la solution, elle, se situe souvent dans les petites choses, les détails, les ombres, Mes rêves rétablissent l'importance de ces petites choses.
C'est absolument fascinant, fascinant. Maintenant, permettez-moi de vous demander en quoi vous avez besoin d'un assistant. Si vous n'avez qu'à dormir, ma foi, suis-je vraiment utile, moi ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs ? Il ferma un instant les paupières qui, plus sombres que le reste de sa peau, semblaient presque fardées.
Le fait est qu'il ne suffit pas de s'endormir. Je suis un humain, comme vous. Je dors la nuit de préférence, d'un sommeil tout ce qu'il y a d'ordinaire. Le sommeil qui nous intéresse en ce moment est d'une toute autre nature. C'est, diriez-vous, une transe. Une transe qui demande, pour que j'y accède, que certaines paroles soient prononcées. Et il convient également que mon rêve dure moins de 26 minutes. Jamais une de plus.
Sans quoi ?
Sans quoi il peut devenir difficile, voire impossible, de me réveiller.
Banerjee et Carandini sont vite devenus aussi efficaces qu'inséparables.
Ma routine ronronnante fut brisée un matin de septembre, alors que j'étais en pleine digestion d'un abus de toast à la marmelade d'abricot. C'est alors qu'on frappa à la porte et je m'empressai d'aller ouvrir. Le client qui se présenta à nous, grand, carré, avec le cheveu cranté et une fine moustache cirée, n'avait en soi rien de particulièrement remarquable. Dès ses premiers mots, en revanche, je sus que nous allions aborder un cas plus tordu encore qu'à notre habitude.
Monsieur Banerjee, on m'a dit le plus grand bien de vous.
Commença-t-il ?
Je pense que vous êtes l'homme de la situation.
J'espère ne pas vous décevoir. Puis-je savoir ce qui vous amène ?
Bien sûr. Je voudrais savoir qui m'a assassiné.
Je sursautai. Même Banerjee ne put réfréner une mimique d'étonnement.
Vous voulez dire que quelqu'un a essayé de vous assassiner ?
Non, j'ai été assassiné.
Vous seriez donc mort ?
Exactement.
Banerjee croisa les doigts de ses mains et y reposa son menton.
Si je puis me permettre, fit-il observer, vous me semblez en très grande forme, compte tenu des circonstances que vous décrivez, monsieur...
Scriven, Lord Scriven.
Ce nom était encore frais dans ma mémoire. Le décès de Lord Scriven, dans son manoir au sud de Londres, avait été annoncé dans le journal de la veille. Le fait avait eu quelques retentissements compte tenu des liens du défunt avec le gouvernement, mais jamais il n'avait été fait mention d'un assassinat. Et pour finir, l'homme qui était assis dans le bureau ne ressemblait en rien au vieillard parcheminé que j'avais vu en photo.
Poursuivez, se contenta de dire Banerjee.
J'ai été assassiné il y a de cela 2 jours, et j'ignore par qui. Je vous donnerai plus tard les circonstances de ce meurtre. Mais sachez que depuis, mon esprit s'est incarné dans un autre corps.
Oh, je vois, fit Banerjee.
L'enquête menée par nos 2 héros ne sera pas de tout repos, comme
Le dernier songe de Lord Scriven,
un roman de Éric Senabre, édité par Didier Jeunesse.
Entre espionnage industriel et secrets de famille, l'intrigue haletante les conduira dans les arcanes d'un sombre complot visant à déstabiliser l'Angleterre. Banerjee et Carandini battront le pavé parisien, inspecteront un honorable manoir, planqueront dans la loge d'un théâtre minable et perceront à jour un code de transmission très ingénieux. Et à chaque étape, la singularité de la méthode de ce duo de détectives fera mouche.
« Mon sommeil est une promenade vers l'ailleurs »,
consent Banerjee. Et on peut ajouter que ses rêves sont le révélateur puissant des secrets les mieux gardés. Nul doute que ce roman sera lu d'une traite par les lecteurs dès 12 ans, quitte à se lancer dans une nuit blanche. Le rêve du pêcheur, par Laurent Voulzy.
J'ai un rêve, le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Je rêve d'eau, mais d'océan. Thank you.
Je voudrais vous parler maintenant d'un petit garçon que vous connaissez peut-être, parce que ses aventures nocturnes sont parues pour la première fois dans les années 1960. Vous n'étiez pas né encore, bien sûr, et moi non plus d'ailleurs. Mais ses exploits sur des créatures féroces sont bien connus. Voici
Max et les Maxi-Monstres,
un album de Maurice Sendak, édité par l'École des Loisirs.
Sur la couverture, un monstre velu justement, cornes de taureau, griffes de félin et pieds humains. Il est sagement endormi dans une forêt exotique. À quoi peut-il bien rêver ? L'histoire commence un soir. Max a revêtu son costume de loup et fait de grosses bêtises. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Et comme la vôtre, sa mère se fâche.
« Monstre !»
lui dit sa mère. « Je vais te manger !» répondit Max. Et il se retrouva au lit, sans rien avoir mangé du tout.
Face au texte, la première image montre Max très énervé, seul dans sa chambre sombre. La lune luit à travers la fenêtre.
Ce soir-là, une forêt poussera dans la chambre de Max.
L'image opte pour un cadrage similaire à la précédente, juste un peu élargi. De hauts arbres ont poussé aux quatre coins de la pièce et du lit du garçon, les yeux fermés dorénavant. On devine qu'on part avec Max pour le pays des rêves.
D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue.
Sur les deux illustrations suivantes, de plus en plus larges, les meubles de la chambre disparaissent sous la végétation et les murs s'estompent à mesure que la forêt s'épaissit. La silhouette de Max jubile de cette liberté conquise. Après un long voyage en bateau, Max approche de côtes sauvages.
Les Maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs. Ils dressaient vers Max leurs terribles griffes.
Envahissant la page, les Maxi-monstres sont aussi terrifiants que drôles. Étonnantes chimères aux yeux jaunes globuleux, mêlant attributs de bêtes sauvages et d'animaux domestiques, ils sont le fruit de l'imaginaire de Max, qui les tient en respect.
« Silence !»
dit simplement Max. Il les fixait, tranquille, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait.
« Vous êtes terrible! Vous êtes notre roi !»
Les illustrations suivantes, de plus en plus grandes et de plus en plus peuplées, confirment le caractère inoffensif des sujets du roi Max. Ils ont beau être des monstres, des maxi-monstres même, ils n'en sont pas moins attendrissants et joueurs, comme une bande d'enfants tapageurs.
« Nous allons faire une fête épouvantable !»
déclara le roi Max.
Et les voilà tous, Max et ses maxi-monstres, à faire la fête toute la nuit dans la forêt sous les étoiles, à grimper aux arbres et parader jusqu'à l'aube dans un déchaînement jouissif de fureur. Au lever du soleil, il est temps pour Max de rentrer chez lui et de se réveiller. L'envie de toute puissance s'est éteinte. La chambre a retrouvé ses proportions rassurantes pour le petit garçon, soulagé de rentrer de cette aventure épique, mais ô combien solitaire. À travers cet album éternel et indispensable, dont les illustrations si expressives s'accordent à merveille avec un texte pur, chaque enfant apprend à apprivoiser ses pulsions et sa peur de la nuit, pour repartir au soir et voguer vers un nouveau rêve, étrange et beau. Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui, dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et rêvé avec « À quoi ça rime ? La nuit d'un nain malin », un album de Junko Shibuya, édité par Autrement Jeunesse à partir de 2 ans, ainsi que l'inusable « Max et les Maxi-monstres » de Maurice Sendak, disponible à l'École des loisirs, à découvrir dès 4 ans. Et enfin, « Le dernier songe de Lord Scriven », un roman d'Éric Senabre, paru chez Didier Jeunesse à partir de 12 ans. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot, avec la collaboration joyeuse de Florent, Mao, Ondine et Solène pour des lectures d'extraits. Merci à tous. La musique que vous entendez en ce moment pour le générique est le morceau Maya du groupe Yappa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire.